C'est l'été, c'est l'époque des déménagements. Et imaginons que dans votre rue, cette année, il y a eu pas mal de déménagements. Les gens sont partis, des gens sont venus, et il se trouve que votre voisin immédiat a vendu sa maison et d'autres gens sont venus. C'est une famille très sympathique, le père, la mère, des enfants. Et ils sont vraiment très gentils. D'ailleurs, c'est pratique parce que les enfants peuvent jouer ensemble. Ils peuvent aller dans le jardin des uns des autres, jouer ensemble. Et ils s'entendent fort bien, ils sont même à peu près du même âge. Et puis avec le temps, vous découvrez que cette famille est bouddhiste. Et vous vous dites, mais voilà un terrain missionnaire pour moi qui suis chrétien. Et vous réfléchissez à comment vous pouvez partager l'évangile avec ses voisins. Mais quelques jours après, ces gens vous disent, écoutez, on trouve que vous êtes des voisins vraiment extraordinaires, vous êtes des gens qui avaient des valeurs. On voudrait vous inviter à venir tel jour à notre temple bouddhiste. Vous viendrez, n'est-ce pas? Et vous êtes pris par surprise. Vous ne pouvez pas dire non. Alors vous dites oui, avec plaisir. Et quelques jours après, vous êtes en train de suivre la voiture de vos voisins et vous allez au temple bouddhiste et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous vous demandez, mais est-ce qu'on va pouvoir rester tranquille dans un coin, se faire oublier et simplement regarder ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont nous faire participer? Est-ce qu'ils vont nous faire chanter? Est-ce qu'ils vont nous faire réciter leur mantra? Est-ce qu'ils vont nous faire... Et puis vous allez là-bas, vous ne savez pas comment vous comporter, vous êtes mal à l'aise, et au milieu des services, tout d'un coup, on demande aux visiteurs de se lever, de dire leur nom et de dire d'où ils viennent, et on leur souhaite la bienvenue comme les nouveaux amis du temple bouddhiste de la ville. Vous avez l'impression de venir d'une autre planète. Et pourtant, ce sont là probablement les sentiments qu'ont les gens qui nous entourent lorsque nous les invitons à venir dans notre église. La plupart d'entre eux n'ont pas de connaissances religieuses, d'attachement particulier à Dieu ou à un enseignement religieux quelconque. Ils ont aussi l'impression de tomber dans une autre planète. Les gens du monde qui nous entoure, que nous appelons aujourd'hui le monde sécularisé, vivent d'une façon différente, sur des bases différentes. Le monde sécularisé n'est pas un monde non religieux, où Dieu est absent. Non, il est là, mais il n'est pas impliqué dans nos affaires. Ce monde sécularisé voit les choses de façon parfois bien différente. Mais il y a cependant, pour ces gens que nous appelons sécularisés, certaines lignes de pensée distinctes que l'on retrouve et qui leur sont communes aux uns et aux autres. Nous vivons dans ce monde, et il est vrai que ces personnes sécularisées, comme on les appelle aujourd'hui, ne sont pas celles qui ont la vie la plus désordonnée, la plus désorganisée, la plus immorale. Ce sont souvent des gens bien rangés, des gens qui ont une carrière, ces gens qui ont une grande connaissance. Ce sont des gens qui ont une famille bien ordonnée, bien éduquée, et qui sont des gens de bien. Et par conséquent, nous considérons facilement qu'ils nous sont finalement assez proches dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils font. Et cependant, les motivations profondes sont très différentes. Et il se trouve que nous, chrétiens, avons comme base à ce que nous vivons, à ce que nous croyons, la parole de Dieu et un certain nombre d'enseignements qui sont fondamentalement différents des idées qui prévalent dans le monde extérieur et qui dirigent les comportements de nos voisins qui vivent dans ce monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous y vivons aussi. Et par conséquent, les idées du monde environnant nous influencent aussi dans notre christianisme. D'autant plus que ce sont les idées de gens qui sont ordonnés, de gens qui sont bien, de gens qui font du bien et qui, par conséquent, nous paraissent déjà chrétiens dans leur comportement. Curieusement, nous nous trouvons avoir aussi certaines idées empruntées au monde sécularisé, ambiant. Et sans nous en rendre compte, nous faisons ce qui s'est passé dans tous les siècles, nous mélangeons les enseignements des Écritures et les enseignements d'un monde qui n'a pas reçu les Écritures. J'aimerais ce matin reprendre avec vous simplement quelques-unes de ces notions qui dominent la pensée sécularisée de notre temps d'aujourd'hui. Il y a bien entendu chez les personnes qui vivent dans le monde aujourd'hui toutes sortes de nuances à ajouter à ces idées, mais ces grandes lignes sont des dénominateurs communs à ceux qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. La première idée, c'est celle de la cause naturelle. Tout ce qui arrive dans le monde a une cause naturelle, pas une cause surnaturelle. Autrement dit, rien n'est expliqué par l'intervention de Dieu. Tout a une cause naturelle. Si je suis riche, c'est parce que mes parents étaient riches, c'est parce que nous avons travaillé fort et nous y sommes arrivés. Voilà pourquoi nous sommes riches. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Si je suis colérique, c'est à cause de mon éducation. C'est à cause des difficultés que j'ai rencontrées dans mon enfance. Dieu n'a rien à voir avec ça. Si je suis pauvre, c'est parce que j'ai grandi dans des milieux défavorisés. C'est parce que je n'ai peut-être pas utilisé tous les talents que j'avais. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tout a une cause naturelle. Dieu n'a rien à faire dans la raison profonde des choses. Et en réalité, cette absence de Dieu, parfois nous la retrouvons aussi dans notre vie chrétienne. Lorsque, par exemple, nous prenons nos décisions dans les domaines de la vie courante sans y impliquer Dieu, nous disons en réalité que nous avons absorbé cette même idée. Dieu est dans les affaires de Dieu et moi je gère mes affaires, je gère ma vie. De cette manière-là, nous cloisonnons Dieu chez lui et puis ensuite il y a mes affaires, ma famille, mes vacances, mon travail. Et ça, je m'en occupe. Certains disent « Oh, mais Dieu ne s'occupe pas des détails de ma vie, voyons. Il faut que nous soyons responsables et que nous prenions les choses en main. » Ainsi, lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre, des choix à faire, on va se renseigner auprès des professionnels, on prend des conseils des gens avisés, on va utiliser la logique, on va utiliser notre intelligence et on va prendre une décision sage et logique. Mais Dieu a-t-il sa place là-dedans pour m'orienter autrement que ce que j'ai pensé? Pourtant, Dieu Emmanuel, Dieu au milieu de nous, a l'intention d'être présent dans notre vie. Dans sa parole, il nous dit à quel point il veut être impliqué dans tous les aspects de notre vie et de notre vie quotidienne. Dieu voit. Regardez par exemple avec moi ce texte du psaume 33. Psaume 33, nous lirons à partir du verset 13. Psaume 33, verset 13, il est écrit ceci. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu voit, Dieu est avec nous. C'était la promesse qu'il a donnée à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu veut être présent dans notre vie. Il n'en est pas absent. Il en est absent parce que nous le voulons bien. Regardez encore avec moi ce passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 47. Ésaïe, chapitre 47. Au verset 10, il est écrit ceci. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. C'est l'homme qui pense qu'il est tout seul et qu'il est appelé à gérer tout seul ses affaires. Dieu n'a qu'une envie, c'est d'être présent avec lui. Il y a une deuxième idée dans le monde sécularisé d'aujourd'hui qui dit que l'homme est autonome. Ce mot vient de deux mots grecs, auto, soit soi-même et nomme la loi. Autrement dit, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est une loi pour lui-même ou qui fait ses propres lois. L'homme, l'être humain, dit le monde d'aujourd'hui, est un être autonome. Il n'est donc pas besoin que Dieu donne des directives dans sa vie. Il n'est pas besoin que Dieu donne un sens à sa vie. S'il y a un sens à ma vie, s'il y a une valeur à mon existence, c'est moi qui vais la donner. C'est moi qui vais la construire. Ce qui est important, c'est important pour moi parce que je l'ai choisi. Et c'est moi qui donnerai de l'importance à ce que je fais. C'est moi qui donnerai de l'importance à ce que je suis. C'est moi qui donnerai une valeur, une couleur à mon existence. Dieu n'a rien à faire là-dedans. L'homme est autonome. Ainsi, si je choisis, par exemple, de laisser un héritage important à la génération suivante, c'est moi qui vais choisir de travailler pour laisser à mes enfants un héritage véritable, le bien-être que peut-être je n'ai pas eu. Je peux peut-être décider que ma vie sera la recherche du bien-être dans mon environnement. Et je vais orienter ma vie en fonction de mes objectifs. Il est très à la mode aujourd'hui d'avoir des déclarations de mission pour soi ou pour son entreprise, de définir soi-même ses objectifs et d'aligner notre comportement, notre travail, nos recherches et nos moyens en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. Le monde d'aujourd'hui considère que c'est à chacun de définir l'orientation à prendre. Ainsi, je peux choisir que ma vie sera orientée autour de la recherche du bien-être physique. Et je vais rechercher comment entretenir ma santé, rester en forme, vivre dans un environnement sain. Ou bien alors, je peux choisir que ma vie sera orientée autour de la musique, autour de l'art, autour de la littérature, autour de la politique pour faire du bien à mon peuple et pour aider mon prochain à vivre dans une meilleure condition. C'est moi, dit le monde d'aujourd'hui, qui dois choisir la ligne que je veux donner à ma vie. Je n'ai pas besoin d'un Dieu pour me le dire. On peut retrouver aujourd'hui des personnes qui ont une vision très élevée. Elles vont peut-être rechercher une vie saine, mettre de côté le tabac, l'alcool, les drogues, les mauvais comportements, et avoir beaucoup de fierté à poursuivre des entreprises généreuses, être très altruistes dans leur comportement, poursuivre et soutenir de bonnes causes. Et comprenez-moi bien, ce sont d'excellentes choses. Ce sont des choses que nous faisons nous-mêmes peut-être, mais pour des motivations et des raisons tout à fait différentes. Cependant, nous pouvons nous surprendre à avoir les mêmes motivations pour faire ces choses-là. Lorsque nous pensons, par exemple, que le bien que nous faisons, c'est ce qui fait de nous un bon chrétien, nous sommes victimes de la même manière de penser. Lorsque nous pensons que le bien que nous faisons, c'est un christianisme suffisant pour nous, nous sommes encore victimes de cette manière de penser. Lorsque nous pensons que notre implication dans la société, dans les bonnes causes, sont des indications et des preuves suffisantes de notre engagement envers le Christ, nous sommes encore prisonniers de cette même mentalité. Lorsque nous choisissons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, pour leur garantir un meilleur avenir que le nôtre, nous sommes encore prisonniers de cette mentalité. Jésus pourrait nous dire, mais enfin, les païens ne font-ils pas de même? Alors où est la différence? En fait, la motivation et la raison pour laquelle nous le faisons fait toute la différence. Nous nous rendons compte que dans cette façon de penser, nous avons abandonné en réalité le plan biblique du salut par la foi pour retourner dans le salut par les œuvres, par nos œuvres, par nos bonnes œuvres. Oh, nous pensons que nous ne serons peut-être pas perdus par nos mauvaises œuvres parce que le pardon de Dieu existe, mais nous sommes prêts de penser que nous serons sauvés par les bonnes œuvres que nous avons faites. Et ainsi, l'amour de soi, va devenir la préoccupation et la motivation principale pour notre action et notre service dans la vie. Finalement, ce n'est pas le changement de notre caractère en vue de l'éternité qui nous préoccupe. Ce n'est pas d'amener nos enfants dans le royaume des cieux qui nous préoccupe. Ce n'est pas de semer autour de nous la bonne odeur du Christ pour transformer les cœurs et les vies des autres qui nous préoccupe. C'est le maintenant. Il y a d'ailleurs des symptômes de l'invasion de cette idée dans notre esprit. Lorsque, par exemple, la prière disparaît de notre vie chrétienne, c'est une manière toute simple de dire, en fait, je n'ai pas tellement besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul. Ou bien, lorsque l'étude de la parole de Dieu devient vraiment secondaire dans notre existence, c'est une manière de dire, la façon dont Dieu a réglé les problèmes des autres, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas parce que eux, c'est eux et moi, c'est moi. Ce sont des symptômes qui indiquent à quel point nous avons été envahis par la mentalité ambiante selon laquelle l'être humain est autonome. Un autre symptôme, c'est lorsque nous perdons confiance dans l'institution de l'Église. Nous prenons du recul par rapport à l'Église parce que nous considérons que personne dans l'Église n'a le droit de nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est à nous seuls de le déterminer et de le juger. Personne n'a rien à nous dire. Et ainsi, nous prenons du recul par rapport à l'Église. Il y a ainsi des symptômes qui indiquent que nous avons absorbé à un certain degré ces idées qui circulent dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, la parole de Dieu définit précisément l'autonomie de l'homme, l'indépendance de l'homme, comme étant synonyme du péché. C'est au moment où l'homme a pris son indépendance vis-à-vis de Dieu qu'il est tombé dans le péché et qu'il est soumis à sa conséquence. La conséquence du péché, c'est la mort. Ainsi, le Seigneur veut avoir une place dans notre vie. Il veut lui-même donner la direction de notre vie. C'est lui qui doit en être la couleur. Regardez avec moi ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, nous lirons dès le verset 5 où il est écrit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » La parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas autonomes. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ou encore dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 29, verset 11. Vous connaissez ce passage qui contient une très belle promesse. Dieu parle et dit ici, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour nous, Dieu a des plans pour nous. Et ces plans sont pour le bien, ils sont pour un avenir, pour une espérance, ils sont pour la vie éternelle. Est-ce que les plans de Dieu ne m'intéressent pas? Est-ce que je suis seulement préoccupé de réaliser mes plans, de donner une orientation à ma vie, moi-même et à ma famille? Est-ce que je n'ai pas envie que Dieu soit impliqué pour suivre les plans de bonheur qu'il a pour moi? C'est ainsi que Dieu présente la relation avec lui et l'humanité. Non, nous ne sommes pas indépendants. Une troisième idée qui circule dans le monde d'aujourd'hui, c'est le relativisme. Puisque Dieu n'intervient pas dans notre vie pour la conduire, pour lui donner un sens, alors, dans ce sens-là, il n'y a pas de norme pour tout le monde. Il n'y a pas une vérité pour tout le monde. Le bien et le mal se définissent en fonction des circonstances. Ce qui est bon pour moi peut être faux pour vous. Ce qui peut être bon pour moi dans certaines circonstances peut être faux dans d'autres circonstances. Ces notions sont relatives. Il n'y a pas une vérité objective D'ailleurs, cette idée n'est pas nouvelle. Vous vous souvenez de ce que Pilate va dire à Jésus? Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus, en réalité, avait déjà répondu à cette question. La vérité, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une doctrine. La vérité, c'est une personne. Et il avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette idée circule dans le monde aujourd'hui, selon laquelle, si un groupe décide par sa majorité d'une certaine chose, alors c'est que cela répond à ses besoins. Si une nation, par exemple, accepte l'homosexualité, c'est que cela correspond à ses besoins. Si une nation vote d'accepter la polygamie ou la peine de mort, eh bien c'est une bonne chose pour cette nation qui l'a choisie. Chaque société va créer ses normes et ses lois en fonction de ses besoins. Autrement dit, chacun est responsable de lui-même. Et il y a ce refus de l'idée selon laquelle il y a des principes moraux et des valeurs universelles, applicables à tous, en tout temps. Ce qui veut dire que l'on va promouvoir la liberté. La liberté est une bonne chose, mais quelle en est la motivation ? On va promouvoir la liberté, on va promouvoir aussi l'amour et la tolérance. L'amour du prochain, il est à définir. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, l'amour du prochain consiste à dire au prochain, « Occupe-toi de tes affaires et laisse-moi surtout m'occuper des miennes. » C'est ça la tolérance, c'est laisser l'autre faire tout ce qu'il a envie et s'assurer qu'il me laisse faire tout ce que j'ai envie. Ainsi, cette liberté, cet amour, cette tolérance va se définir autrement aujourd'hui, bien que les mots soient semblables. Mais encore une fois, nous sommes victimes de la même manière de penser. Lorsqu'en réalité nous diminuons l'importance des normes d'une vie chrétienne et que nous disons, « Oh, vous savez, en fait, l'essentiel, c'est l'amour du prochain. L'essentiel, c'est d'aimer son prochain, de le laisser faire ce qu'il veut et qu'il me laisse faire ce qu'il veut. Et c'est Dieu qui jugera, n'est-ce pas? Il ne faut juger personne. » Ce langage, nous l'avons, nous l'entendons. Il est le reflet de la mentalité d'aujourd'hui, sûrement pas des Écritures. Ainsi, nous refusons parfois l'idée, même dans l'Église, que certaines normes sont valables pour tout le monde. Nous refusons, par exemple, l'idée que la musique peut être mauvaise ou peut être bonne. Non, la musique est un instrument neutre, disent certains. Ça dépend comment on l'emploie. Il n'y a pas de bons instruments et de mauvais instruments, ça dépend tout comment on les emploie. Il n'y a pas de mauvaise danse ou de bonne danse, ça dépend tout comment on les emploie. Nous nous sentons parfois piégés par cette idée que nous reproduisons selon laquelle la musique, par exemple, n'a pas une valeur morale en soi. C'est un instrument neutre, pensent certains. Relativisme. Il y a certains signes auxquels nous reconnaissons aussi que nous sommes atteints par cette mentalité. Lorsque dans le passé nous considérions certaines choses comme mal, mauvaises, et que tout d'un coup aujourd'hui nous considérons que après tout, elles ne sont pas si mal que ça. Il y a eu un changement dans notre existence. Ou bien alors, nous nous rendons compte peut-être que la distinction, la ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal, est devenue un espace gris dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes, souvent. Nous avons là une indication que cette mentalité sécularisée aujourd'hui nous convient de mieux en mieux. Ou bien encore lorsque nous nous rendons compte que les normes de vie chrétienne, nous les vivons d'une façon beaucoup plus élastique. Nous ne voyons pas beaucoup de problèmes à vivre avec notre fiancé ou notre fiancée des mois avant le mariage, ça ne nous pose pas de problème. Ou bien alors, la dîme n'est pas nécessairement un principe acquis. Si le besoin se présente, on réajustera les 10% selon le besoin. Ou bien alors, en société, on se permettra peut-être un verre pour ne pas rompre l'amitié avec les autres. Ou bien alors, on prendra les divertissements que les autres ont aussi. Parce que finalement, il faut être ouvert aux autres. Et l'on pense ainsi donner une justification acceptable au relativisme qui a pénétré notre vie chrétienne. Dieu dénonce le relativisme dans les Écritures. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5. Au verset 20, il est écrit ceci. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. » Et le texte continue en nous montrant comment ce relativisme dans l'esprit nous conduit à un relativisme dans le comportement et dans l'observation de la loi de Dieu. Jésus avait ce souci pour les disciples. Il en parle à son Père dans cette prière que nous connaissons et qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. Évangile selon Jean, chapitre 17, au verset 15, Jésus prie son Père et dit ceci. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il y a une vérité normative. Et dans le même évangile, au chapitre 8, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus ne dit pas « Vous serez affranchis pour autant que vous soyez de bonne volonté. » Non, il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Et s'il y a une vérité, il y a aussi une erreur. La ligne est clairement définie par les Écritures. Elle n'est pas laissée au libre choix de chacun selon les circonstances. Et c'est pour cela que le monde d'aujourd'hui a inventé l'éthique de circonstances. Dieu a donné la ligne. Il est la vérité, il est la vie, il est le seul qui peut nous affranchir. Une dernière notion qui circule dans le monde d'aujourd'hui, c'est cette idée selon laquelle nous avons la vie aujourd'hui, mais après la vie, il n'y a rien. Cette idée est curieuse parce que dans le monde sécularisé où nous sommes, il y a en même temps un engouement énorme pour la recherche de l'au-delà. Une idée paradoxale. Ainsi, puisque nous avons cette vie et que rien n'est garanti pour après, entendons-nous autour de nous, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de profiter d'aujourd'hui. Il n'est marqué nulle part qu'il y a quelque chose après. Et cela conduit le monde à chercher du bien-être, du divertissement, aussi souvent que possible. Et puisque Dieu n'a rien à faire là-dedans, puisque nous n'avons que notre vie, eh bien, il n'y a pas non plus de punition. Il n'y a pas non plus de récompense. La récompense, c'est la manière dont tu vas vivre ta vie, dit le monde d'aujourd'hui. Ta punition, ce sera aussi la manière dont tu vas la gâcher. C'est toi qui vas faire la récompense et c'est toi qui vas faire la punition. Par conséquent, il n'y a pas non plus de jugement et personne ne peut te juger, entend-on dans le monde d'aujourd'hui. Tu choisiras toi-même si tu veux faire ton bonheur ou si tu veux faire ton malheur. Nous pouvons réaliser à quel point nous avons adopté cette mentalité lorsque nous disons « Suis-je le gardien de mon frère ? Je me garderai bien de juger cette personne. Il fait ce qu'il veut. » Ou bien alors lorsque nous participons au culte et que nous voulons que le culte soit vraiment intéressant. Vous entendez des gens qui disent « Oh, vous savez, moi je reste à la maison. » Parce que aller au culte, ça ne m'apporte rien. C'est parce que nous avons l'idée que nous venons consommer quelque chose. Nous n'apportons rien. Je n'ai rien à apporter, je vais au culte pour prendre, pour consommer. C'est le reflet de cette mentalité-là d'aujourd'hui. Ainsi, nous trouvons parfois chez nous-mêmes, chrétiens engagés, le matérialisme de la même manière qu'il est chez nos voisins qui ne croient pas en Dieu. Où nous avons le souci de garantir les biens matériels, notre avenir, et de voir tout absolument parfaitement organisé dans notre vie d'aujourd'hui. Mais lorsque on passe dans l'église, dans les rangs pour la collecte, on regarde s'il n'y a pas de la menue monnaie au fond de notre poche. Parce que de toute façon, l'argent qu'on donne à l'église, pensent certains, on ne sait même pas où il va, c'est un peu de l'argent perdu. Lorsque je ne donne que 2-3 sous à l'église, lorsque je n'investis pas dans la proclamation de l'évangile dans le monde entier, je suis en train de dire et de répéter ce que l'évangile me dit, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et notre cœur, où est-il? Qu'avons-nous investi, non seulement par nos moyens, mais par notre énergie, par notre temps, qu'avons-nous investi dans les valeurs éternelles? Et qu'avons-nous investi dans les valeurs d'ici-bas? La proportion va nous donner l'indication des valeurs que nous avons acceptées. Ainsi, nous pouvons aussi manifester dans notre comportement, sans parfois même nous en rendre compte, le fait que nous avons accepté cette idée, il y a cette vie, mais après, nous ne savons pas. Or, nous pouvons en même temps parler du retour de Jésus, mais enfin, les adventistes n'en parlent-ils pas depuis bientôt 200 ans, après tout? La parole de Dieu nous donne cette vision selon laquelle cette vie, celle-ci, n'est pas l'essentiel. Si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour rendre éternelle la vie que nous avons ici. C'est pour nous donner de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, le rappelle à ces gens qui, déjà à cette époque, semblaient avoir été pris par ces idées sécularisées qui circulent encore aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 15, à la fin du verset 32, il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » L'apôtre Paul pourrait-il écrire ce texte pour nous aujourd'hui ? Ces gens ne pensaient pas que finalement la résurrection était une réalité, qu'il y avait quelque chose après. Et Paul leur explique, mais enfin, s'il n'y a rien après, il n'y a rien maintenant, et votre foi est vaine, et vous êtes dans votre péché, et vous êtes mort. L'apôtre Pierre, dans la première lettre qu'il envoie, rappelle aussi l'essentiel. Premier épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, se trouve là un rappel d'une extrême importance. Recentrer finalement les priorités sur ce qui dure. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » L'héritage que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un héritage ici, c'est l'héritage dans les cieux. Ce pourquoi le Seigneur travaille maintenant, c'est pour un héritage qui ne peut se détruire, et qui est éternel. Autrement dit, cette vie que nous avons, si elle paraît importante à chacun d'entre nous, qu'est-elle en réalité face à l'éternité que Dieu envisage de donner à chacun de ceux qu'ils reçoivent comme leur sauveur personnel? Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. L'espérance chrétienne, elle est là. Elle n'est pas dans l'établissement du bien-être là où nous sommes. Les serviteurs de Dieu dans les Écritures, relisez leur vie, n'ont pas connu beaucoup de bien-être. Ils ont connu le service, ils ont connu les épreuves, ils ont connu la joie de la glorieuse espérance. Ainsi, nous disons être des disciples de Jésus dans le temps d'aujourd'hui. Mais nous devons reconnaître que les idées qui circulent dans le monde sécularisé où nous vivons chaque jour ont un impact sur notre christianisme. Il se peut que nous soyons inconscients de l'influence des idées qui circulent aujourd'hui et qui affectent notre manière de vivre, notre foi. Cependant, je crois que la parole de Dieu nous permet de distinguer entre le plan de Dieu et le plan des hommes. Même si dans la pratique, parfois, on a l'impression qu'ils se rejoignent, dans les motivations, ils sont fondamentalement différents. L'apôtre Paul rappelait que pour lui, vivre, c'est Christ. Est-ce là la motivation que nous avons? Et cette personne-là va changer tout dans notre orientation, dans la motivation qui va nous faire vivre une vie chrétienne, dans les idées que nous allons recevoir. L'apôtre Paul exhortait les gens de son temps à prendre garde, de sorte que les idées environnantes ne deviennent pas le fondement de leur foi. Et j'aimerais ce matin vous laisser cette invitation de l'apôtre Paul. Elle se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. L'apôtre Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen.